Bonjour et bienvenue dans Parole d'expert, le podcast de l'ASL, l'autonome de solidarité laïque, qui aborde les grands sujets liés au métier de l'éducation. Aujourd'hui, nous abordons la thématique communauté éducative et plus précisément la question de l'école du 21e siècle et des nouvelles formes de pédagogie. Quels sont les défis de l'école de demain? Pourquoi et comment notre système éducatif doit-il se transformer? Et bien sûr, comment accompagner les enseignants dans toutes ces mutations? Pour en parler, nous recevons François Taddeï, chercheur à la fois dans les domaines de la biologie et de l'éducation. Diplômé de l'École Polytechnique, il dirige le CRI, Centre de Recherche Interdisciplinaire, qui s'intéresse aux nouvelles manières d'apprendre. Il est à ce titre l'auteur de l'ouvrage « Apprendre au XXIe siècle ». Bonjour François Taddeï.
Bonjour.
Quels sont pour vous les défis de l'école de demain ?
Je pense que le principal défi pour l'école de demain, c'est de devenir une école des défis. C'est-à-dire une école où les jeunes et de facto toute la communauté éducative apprend à relever des défis toujours plus complexes. Ça peut être les défis du changement climatique, ça peut être les défis de la crise Covid, ça peut être les défis de l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça peut être les défis démocratiques. En fait, on voit qu'on a énormément de défis à toutes les échelles et régulièrement, on rajoute des couches et des missions à l'école. Mais si, au lieu d'en rajouter à chaque fois une couche, on définissait dès le départ que le rôle principal de l'école, c'est d'apprendre à relever des défis pour que chacun puisse prendre soin de lui, des autres, de la planète, que chacun soit capable de relever des défis personnels, les défis locaux de nos communautés et les défis globaux planétaires, je pense qu'on aurait fait un pas très important pour préparer les jeunes à un monde toujours plus incertain, un monde qui connaît beaucoup de crises qui s'entremêlent et un monde où la complexité des enjeux demande une redéfinition des missions de l'école.
Faut-il, pour aborder des questions aussi complexes, revoir le rôle de l'école et sa pédagogie ?
Oui, typiquement, une école qui met les enfants en compétition sur les savoirs d'hier, sachant que les savoirs d'hier, il y en a à peu près 100 fois plus tous les 100 ans, on voit bien qu'on peut pas passer 100 fois plus de temps à l'école que du temps de Jules Ferry et avant. Donc, c'est pas possible. Par contre, ce qu'il faut, c'est avoir appris à apprendre, c'est avoir appris à coopérer, c'est avoir appris à relever des défis en s'informant en temps réel, mais en étant capable de trouver des ressources, non seulement inspirantes, mais en même temps de qualité, pour que ce qu'on apprend ne soit pas teinté de fake news et de toute forme de difficultés auxquelles, sur Internet, on peut se perdre très vite.
Faut-il pour cela que le modèle pédagogique même évolue ?
Oui, typiquement, passer d'une pédagogie très compétitive dans laquelle on demande aux jeunes d'apprendre quelques éléments dans des disciplines séparées, les inviter à prendre conscience des liens qu'il y a entre différents sujets. Comprendre que Voltaire est à la fois un personnage historique qu'on peut voir en cours d'histoire et un intellectuel dont on peut étudier les textes en français et en même temps quelqu'un qui peut nous aider à repenser le vivre ensemble, la tolérance et la démocratie. On voit bien que rien que sur un sujet comme ça, il y a plein de points à faire, mais c'est vrai sur énormément de sujets. Si on veut comprendre la crise climatique, il y a évidemment des dynamiques scientifiques, à la fois physiques et biologiques, mais il y a aussi des aspects économiques, il y a des aspects démocratiques, il y a des aspects mathématiques, voilà. On voit bien que comprendre le moindre sujet suppose d'intégrer différentes disciplines et de partir sur des approches qui partent des défis nous amènent relativement loin. C'est ce que d'autres pays ont fait, donc on pourrait y arriver.
Est-ce que le changement de ces pédagogies que vous prenez nécessite la mise en place de formations différentes pour les enseignants ?
Oui, typiquement, la plupart des personnels qui enseignent aujourd'hui ont été formés au siècle précédent, avec tout un tas de défis qui étaient très différents de ceux d'aujourd'hui. C'était les défis de la massification scolaire. Et typiquement, les enseignants sont des gens qui ont plutôt réussi dans le système éducatif d'hier. Comment les inviter à penser celui de demain ? Je pense que c'est en les invitant à co-construire entre eux déjà, et puis avec les jeunes eux-mêmes. Et ça, c'est typiquement des choses qui sont recommandées, y compris par l'UNESCO, par les Nations Unies, et demandées. Et il y a toujours plus d'enseignants qui veulent enseigner ces sujets liés à l'anthropocène et au changement climatique, et qui cherchent à réinventer leur propre métier. Mais on voit bien qu'il y a besoin de créer des espaces de liberté, éventuellement des évolutions du programme, des évolutions des formations, et tout ça, ça peut s'apprendre, mais ça suppose de s'en donner les moyens. La formation et la recherche et la capacité à innover sur le terrain sont trois des moteurs pour accélérer la capacité d'un système à évoluer et donc à s'adapter à ces changements du monde. Et donc, il faut savoir investir dans la formation, éventuellement dans de nouvelles formations. Il faut savoir investir dans la recherche pour savoir justement qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Et il faut savoir investir dans l'innovation qui vient du terrain pour la documenter, la partager et faire que ce qui marche le mieux soit rendu accessible aux autres. pas imposer à tout le monde. Ça suppose une logique qui n'est pas du tout la logique jacobine où la rue de Grenelle, par trois circulaires, va promouvoir le changement, mais où l'on est capable d'entendre les besoins du terrain ou des terrains, parce que chaque contexte est un petit peu différent, et d'offrir des méthodes où on peut, y compris en tant qu'enseignant, apprendre par la recherche à résoudre les défis de sa classe.
Dès lors, quels sont les changements concrets qui peuvent être envisagés ?
Disons que typiquement, les pays qui se sont plus transformés ont carrément supprimé les postes d'inspecteurs. Mais typiquement, ils n'ont pas coupé les têtes des gens. Ils les ont formés pour devenir des facilitateurs, pour venir des experts, pour venir des gens qui ont été voir ce qui se passe dans d'autres pays, qui ont été formés par la recherche, qui sont capables d'apporter aux enseignants des choses qu'ils n'auraient pas forcément et de créer des dynamiques et en particulier de faciliter cette capacité de collectif enseignant à l'échelle d'un établissement ou d'un territoire à co-définir des manières de relever ces défis complexes.
Vous mettez en avant la nécessité de faire place aux innovations au sein même de l'école. Comment les faciliter ? Et quel rôle pourraient avoir les enseignants ?
Le système commence à se rendre compte que la meilleure manière d'innover, c'est encore d'inviter les acteurs de terrain à décrire ce qu'ils font et ce qu'ils aimeraient faire et de leur donner les moyens de passer à l'action. Est-ce qu'on peut imaginer ces solutions à l'échelle d'une classe, à l'échelle d'un établissement, à l'échelle d'un système un peu plus large? Et est-ce qu'on peut les mettre en œuvre? Et je pense qu'il y a aujourd'hui des budgets même dans un programme présidentiel pour faciliter ces innovations. Je pense qu'on peut apprendre à faire ce genre de choses et on peut le faire en tant qu'étudiant, futur enseignant, on peut le faire en tant qu'élève qui un jour deviendra peut-être un enseignant à son tour. En fait, il y a par exemple un petit déclic qui est intéressant. Il y a une étude que je trouve très pertinente qui montre que les meilleurs enseignants sont souvent d'anciens mauvais élèves qui ont eu un déclic et qui ont compris que, en fait, entre un élève qui n'a pas compris et un élève qui comprend, c'est pas une question de génie inné, etc., c'est une question de déclic. Et donc, ce déclic, eux, en tant qu'enseignants, ils cherchent à le produire chez l'élève qui est en difficulté. Parce que finalement, faire réussir les bons élèves, entre guillemets, c'est facile, mais accompagner ceux qui sont en difficulté et les aider à avoir ce déclic pour être capable d'avancer, c'est absolument clé.
Que nous apprend la comparaison internationale sur ces transformations systémiques ?
Alors, ce que l'on voit dans des pays qui ont connu ces transformations systémiques, c'est que typiquement, il faut passer d'une logique de contrôle à une logique de confiance. Il faut passer d'une logique de compétition à une logique de coopération. Il faut passer d'une logique d'inspection à une logique de facilitation. Il faut passer d'une logique de circulaire à une logique de recherche. Voilà, donc ça c'est à peu près systématiquement ce qui s'est passé dans tous les pays qui sont les meilleurs dans les classements de Shanghai et autres. Eh bien, c'est des pays qui ont connu des changements de ce genre. On prend le Canada, c'est le meilleur de leur continent, la Finlande, c'est le meilleur de notre continent, et même Singapour, qui est le meilleur du continent asiatique, où il y avait beaucoup de pression, etc., ils sont en train de supprimer les notes. Ils sont en train de se transformer. Ils ont supprimé leurs inspections. Par exemple, ils invitent, à chaque fois qu'on est promu dans le système, on est envoyé à l'international, voir comment d'autres sont organisés pour se rendre compte qu'il n'y a pas qu'une seule manière de s'organiser. Il y en a au moins une autre, puisqu'on en découvre dans un autre pays. Mais en fait, il y en a une infinité d'autres. Et donc, quand on sait qu'il y en a une infinité d'autres, on peut inventer celle qui nous correspond le mieux.
Le changement systémique peut être difficile à mener. Quels sont les freins et quelles sont les clés pour le rendre possible ?
Je pense que un des freins au changement systémique, c'est la centralisation. Et donc, historiquement, on est effectivement une très grosse structure. Enfin, la Chine est encore plus grosse et ils ont réussi à transformer leur système. Alors bon, pas forcément envie de se comparer à la Chine, mais quand même, c'est intéressant de voir qu'à différentes échelles, une des clés de ça, c'est une forme de décentralisation pour permettre aux acteurs de terrain d'identifier les problématiques de leur territoire, de leurs élèves, et de trouver des solutions. Et donc, on a un problème par rapport à ça, parce qu'on pense qu'il faut mettre liberté, égalité, fraternité au fronton de toutes les écoles, et il faut exactement la même chose. Dès le 19e siècle, il y avait des ministres de l'Éducation qui, à l'Assemblée nationale, disaient « Si je rentrais dans une classe aujourd'hui, je saurais exactement qui sont à telle page du manuel en train de suivre le programme. » L'idée même de programme, c'est qu'on programmait exactement ce qui allait se passer dans chaque classe, voire dans chaque tête de chaque élève. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. La réalité, elle est beaucoup plus diverse et il faut accepter cette diversité pour s'y adapter et permettre l'émancipation. Parce qu'en mettant l'égalité au cœur de, au moins de la théorie de notre système, on a en fait un des systèmes les plus inégalitaires qui soit. Et donc un système qui creuse les inégalités beaucoup plus que ceux qui savent s'adapter à chaque contexte. Donc ça, il faut en fait un changement de paradigme par rapport à ça. Donc je pense que c'est possible de le faire, mais il faut accepter que ce qui compte en fait, c'est l'équité. C'est de faire réussir chaque élève. Et il faut partir de la diversité des élèves. L'élève moyen n'existe pas. Tous les élèves sont différents. Si vous mesurez les élèves sur une dizaine de paramètres psychologiques, il n'y en a pas un qui correspond à l'élève moyen. Ils sont en avance sur certains sujets, ils le sont moins sur d'autres, et il faut s'adapter à cette diversité. Et c'est possible, mais ça suppose de changer les pédagogies, ça suppose de changer de paradigme.
Plusieurs éléments que vous évoquez nous rappellent les pédagogies des écoles Montessori. Sont-elles de bons exemples ?
Montessori, Freinet, mais même Socrate encore avant, ont tous su inventer des pédagogies adaptées à leur temps. On est dans un monde où on peut inventer encore d'autres pédagogies qui peuvent s'inspirer de plein de choses. Typiquement, les Finlandais dans les années 70, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une revue de l'ensemble des pédagogies qui existaient et ils les ont recombinées pour inventer la leur et pour faire quelque chose qui correspondait à leurs besoins. Donc le but, c'est certainement pas d'imposer, enfin de passer d'un paradigme fixe à un autre paradigme fixe. Même si Marie Montessori était encore vivante aujourd'hui, elle continuerait à faire ce qu'elle a fait toute sa vie, c'est à réinventer son modèle et à l'adapter aux technologies de son temps et aux défis de son temps. Donc, c'est pas tant de dire Maria Montessori est la papesse de l'éducation, il faut tous suivre son gospel. Non, il faut inventer des choses qui peuvent être inspirées de Maria Montessori, parce qu'elle avait des intuitions absolument géniales, et une partie de la recherche d'aujourd'hui a tendance à confirmer une bonne partie de ses intuitions. Donc, je pense qu'on peut s'en inspirer, mais il faut pas faire du copier-coller en l'imposant.
Merci François Taddeï. Merci d'avoir écouté Parole d'expert, le podcast de l'ASL qui aborde les grands sujets liés au métier de l'éducation. Pour écouter les autres épisodes, je vous donne rendez-vous dans la rubrique podcast du site internet de l'Autonome de Solidarité Laïque.